Audible Studio présente Adieu et retrouvailles. L'Assassin Royal. Tome 13 de Robin Hobb. Traduit par Arnaud Mounier-Lompré. Lu par Sylvain Agaès. Chapitre 1. Guérison. La pratique chalcédienne, qui consiste, pour un propriétaire, à marquer ses esclaves d'un tatouage particulier, est née d'une mode en vogue dans la noblesse. À l'origine, elle ne concernait que les sujets les plus précieux, ceux qu'on prévoyait de garder toute leur vie. Cette coutume s'est généralisée, semble-t-il, lorsque Sir Graart et Sir Port, puissants aristocrates de la cour chalcédienne, ont commencé à faire assaut de fortune. Bijoux, chevaux et esclaves servaient alors d'étalon à la richesse, et Sir Graart a décidé de faire marquer de façon ostensible toutes ses montures et ses domestiques asservis, dont des colonnes entières l'escortaient lors de ses sorties. On raconte que le seigneur Port, à l'imitation de son concurrent, entreprit alors d'acheter des centaines d'esclaves à bas prix, sans valeur particulière, comme des artisans ou des érudits, dans le seul but de les tatouer de son sceau et de les exhiber. À cette époque, certains ouvriers et courtisanes assujettis obtenaient de leur maître le droit d'accepter des emplois à l'extérieur et parfois, ces privilégiés gagnaient assez d'argent pour acheter leur liberté. On le comprendra, nombre de propriétaires mettaient quelque mauvaise volonté à se séparer de serviteurs d'un tel prix. Or, comme les tatouages ne s'effaçaient pas sans laisser de considérables cicatrices et que les documents d'émancipation falsifiés circulaient abondamment, les affranchis avaient du mal à faire la preuve de la légalité de leur statut. Les possesseurs d'esclaves ont alors tiré profit de cette situation en créant des « anneaux de liberté ». Onéreuses boucles d'oreilles d'or ou d'argent, souvent serties de pierres précieuses, au dessin particulier à chaque famille noble qui indiquait que tel esclave avait obtenu légitimement sa libération. Après avoir acheté son affranchissement, il lui fallait fréquemment des années de service encore pour payer le bijou, prouvant qu'il avait acquis le droit de se déplacer en Chalcède à son gré et sous sa propre caution. Histoire des coutumes esclavagistes chalcédiennes, de Gérepu. Les heures qui succèdent à une bataille me sont familières. J'ai marché sur des terres gorgées de sang et enjambé des corps mutilés. Pourtant, jamais je n'avais connu de combat dont la suite eût mieux illustré la futilité des conflits armés. Les guerriers pansaient les plaies qu'ils s'étaient infligées mutuellement, et les outriliens qui avaient dressé le fer contre nous demandaient aux envoyés du Hedgurd des nouvelles de leur famille et des propriétés de leur clan qu'ils n'avaient pas revues depuis des années. Ils évoquaient ces personnages de conte qui s'éveillent d'un sommeil enchanté et s'efforcent de retrouver leur existence disparue, de franchir l'abîme du temps perdu. On ne le voyait que trop. Ils n'avaient pas oublié les actes qu'ils avaient commis au service de la femme pâle. Je reconnus parmi eux un des gardes qui m'avait traîné à ses pieds. Sous mon regard, il détourna vivement les yeux, et je n'insistai pas. Péotre m'avait déjà fourni le seul renseignement que je voulais. Je traversai le camp que l'on désassemblait avec une hâte presque inconvenante. On installait déjà deux blessés graves, tous deux des forces de la femme pâle, sur les traîneaux, et l'on démontait les tentes. On bâtissait rapidement un tumulus de glace sous lequel gisaient trois cadavres, également d'anciens adversaires. Glacefeu avait dévoré celui de l'aigle, le représentant du Hedgurd tombé lors de la résurrection du dragon. Lui devrait se passer de sépulture. Les deux autres hommes que nous avions perdus, Renard et Adroit, avaient été ensevelis dans l'effondrement de la fosse, et de fait, les exhumer pour les inhumer à nouveau n'aurait rimé à rien. Je trouvais cet abandon de nos morts irrévérencieux, mais je percevais l'émotion qui le motivait. Notre départ baignait dans une atmosphère d'urgence, comme si plus vite nous quitterions le glacier, plus vite la femme pâle deviendrait une créature du passé. J'espérais qu'elle aussi restait enfouie dans l'immense tombeau affaissé. Tram m'escortait et Imbre se portait à ma rencontre à pas pressés. On lui avait bandé le bras. « Par ici !» me dit-il, et il me conduisit auprès de Burick qui gisait dans la neige. L'Est à ses côtés. On n'avait pas tenté de le déplacer. Sa position anormale trahissait une torsion effrayante et contre nature de sa colonne vertébrale. Je tombai à genoux devant lui, étonné de lui voir les yeux ouverts. Sa main s'agita faiblement sur la glace, comme une araignée mourante. J'y glissai la mienne. Il respirait à petits coups, comme s'il se cachait de la douleur qui rôdait dans la partie inférieure de son corps. Il parvint à prononcer un mot.
« Seul !»
Je me tournai vers Tram et Imbre, qui s'écartèrent en silence. Le regard de Burick se porta vers l'est. L'enfant prit un air buté. Son père inspira un peu plus profondément. Une teinte étrange assombrissait le pourtour de sa bouche et de ses yeux.
« Rien qu'un moment !»
murmura-t-il d'une voix rauque à son fils. Le jeune garçon inclina légèrement la tête, puis s'éloigna.
« Burick, » fis-je.
Mais il m'arrêta d'une crispation presque sèche de sa main sur la mienne. Il rassembla ce qui lui restait de force et dit en reprenant son souffle entre chaque phrase
« Va à la maison !»
Son ton se fit impérieux.
« Occupe-toi de Molly, de garçon !»
Je secouai la tête. Il me demandait l'impossible. Sa main serra la mienne avec l'ombre de sa vigueur d'autrefois.
« Si, tu iras, tu dois, pour moi. »
Nouvelle inspiration. Il plissa le front comme s'il prenait une décision grave.
« Malta et Rousseau, quand elle sera en chaleur, pas brutale, Rousseau. »
Il leva le doigt comme pour m'interdire de discuter. Puis, il inspira plus profondément.
« Bien, voulez voir le poulain ?»
Il cligna lentement les yeux, puis fit avec difficulté.
« L'Est !»«
L'Est !» criai-je. L'enfant qui faisait les 100 pas non loin leva la tête et se précipita pour nous rejoindre. Avant qu'il n'arrive, Burick dit avec une trace de sourire sur ses lèvres.
« J'étais l'homme qu'il lui fallait. »
Il reprit son souffle et murmura encore.
« Mais c'est toi qu'elle aurait choisi si tu étais revenu. »
Puis l'Est se jeta à genoux près de son père et je lui cédai la place. Imbre et Tram avaient apporté une berne épaisse et le second expliqua. « Nous allons essayer de creuser la neige en dessous de vous et d'y glisser la couverture pour pouvoir vous transporter jusqu'au traîneau. Le prince a déjà envoyé l'oiseau qui doit indiquer au bateau de venir nous ramener à Zilig. »«
Sans importance, »
répondit Burick. Ses paupières tombèrent tandis que sa main se refermait sur celle de son fils. Peu après, je la vis s'ouvrir mollement. « Profitez de ce qu'il est inconscient pour le déplacer, » dis-je. Et je mis la main à la patte pour déblayer la neige puis insérer la couverture dans l'espace dégagé. Malgré toute notre délicatesse, Burick gémit quand nous le soulevâmes, et il s'affaiblit un peu plus à mon vif. Je me tus, mais l'Est dut le sentir comme moi. Les mots étaient inutiles. Nous le déposâmes sur le traîneau à côté des deux autres blessés, puis, alors que nous nous apprêtions à prendre le chemin du retour, je scrutai le ciel limpide, mais ne vis nul signe des dragons. « Ils ne nous ont même pas dit merci, » remarquai-je, à l'intention de Tram. Il haussa les épaules en silence et nous partîmes. Je passai le reste de la journée à marcher à côté de Burick, chaque fois que mon tour finissait de tirer le traîneau. L'Est se plaçait de façon à toujours voir son père. Mais je ne crois pas qu'il rouvrit les yeux une seule fois. L'Ours restait assis à l'arrière du véhicule, emmitouflé dans une couverture, les yeux dans le vague. Chaudement emmailloté, Cossy et Ertre occupaient l'autre traîneau que Péotre tractait en fredonnant tout bas et qu'escortaient Devoir et la Narcheska. Comme il nous précédait, je n'entendais pas ce qu'Elgania disait à sa mère, mais je le devinais. Le regard de la femme, quand il se posait sur Devoir, avait une expression un peu moins réprobatrice, mais il restait surtout fixé sur sa fille, empreint de fierté. Les hommes survivants du Hedgurd avançaient en tête, pour sonder la neige. Tram, puis Imbre, vinrent marcher quelque temps à mes côtés. Il n'y avait rien à dire, et nous ne dîmes rien. Je fis le compte de nos pertes. Je n'y tenais pas particulièrement, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Mon prince était venu avec 12 hommes, plus leste et lourd. Le Hedgurd avait envoyé 6 observateurs. 20 personnes en tout, auxquelles s'ajoutaient le fou et Burik. 22. La femme pâle avait tué Est, Crible et le fou. Burik mourait du coup que lui avait porté le dragon de pierre. L'aigle avait péri sous le déluge de glace provoqué par l'explosion d'Imbre. Renard et Adroit étaient morts eux aussi. Nous regagnerions Zilig à 16, à condition qu'il ne fût pas arrivé malheur à Perdreau et Rossé sur la grève. Je poussai un long soupir. Nous ramenions tout de même la mère et la sœur de la Narchesca, et 8 Outriliens retrouveraient leur foyer, 8 hommes dont leur famille avait fait le deuil depuis longtemps. Je cherchais en moi un sentiment de satisfaction, même minime, mais en vain. Cette dernière bataille de la guerre des pirates rouges, malgré sa brièveté, était celle qui m'avait coûté le plus cher. Au soir grisaillant, Péotre ordonna la halte, et nous montâmes le camp sans échanger guère de paroles. Avec 2 tentes, nous dressâmes un abri afin de protéger les blessés sans avoir à les déplacer de leur traîneau. Les 2 anciens guerriers de la femme pâle pouvaient parler et se restaurer, mais Burik restait sans connaissance. J'apportai à l'Est de quoi boire et manger, puis m'installai près de lui. Mais je sentis au bout d'un moment qu'il souhaitait demeurer seul avec son père, et j'allais flâner sous les étoiles. La nuit, il n'y a pas de véritable obscurité dans ces régions, et l'on ne voit que les astres les plus brillants dans le ciel. Il faisait froid, et le vent incessant accumulait la neige contre nos toiles protectrices. Je n'avais envie d'aller nulle part, ni de rien faire. Imbre et le prince se serraient dans la tente de la Narchesca avec la famille de Péotre, heureux et victorieux, émotion qui me restait totalement étrangère. Les hommes du Hedgurd et les Outriliens à la personnalité retrouvée s'étaient rassemblés de leur côté. Je passais près d'un petit feu où la chouette effaçait tranquillement, à l'aide d'un fer rouge, le tatouage à motif de dragon et de serpent de l'avant-bras d'un ancien adversaire. Le vent m'apporta l'odeur de la chair grillée, tandis que l'homme gémissait, puis poussait un hurlement de souffrance. Le clan de Vive de Devoir, moins leste, s'était lui aussi entassé dans une petite tente. J'entendis la basse de la voix de Tram et aperçus le reflet d'un œil félin qui jetait un regard à l'extérieur. Tous partageaient sans doute le triomphe de Devoir. Ils avaient libéré le dragon, et ils avaient gagné l'estime de la Narchesca. Longue-Mèche était assis seul devant une flambée à l'entrée d'une tente obscure. D'où tirait-il l'eau de vie dont je humais l'arôme? Je faillis poursuivre mon chemin après lui avoir adressé un signe de tête, mais un je ne sais quoi dans son expression me dit que ma place se trouvait à ses côtés ce soir-là. Je m'accroupis, tendis les mains à la chaleur du feu et le saluai. « Capitaine. »«
Capitaine de quoi ? »
rétorqua-t-il. Il fit rouler sa tête avec un craquement audible, puis soupira.
« Est, Crible, Adroit, tous les hommes qui m'accompagnaient sont morts, et moi, j'ai survécu. Belle réussite pour un officier. »«
J'ai survécu, moi aussi, » fis-je observer. Il hocha la tête, puis d'un mouvement du menton, il désigna la tente derrière lui.
Votre simplet roupille là-dedans. Il avait l'air un peu perdu, alors je l'ai pris en charge.
Merci. Le remords me saisit un instant, puis je m'interrogeai. Aurais-je dû quitter Burik pour m'occuper de Lour? Non. Sans doute Longue-Mèche avait-il eu besoin lui-même de veiller sur quelqu'un. Il fouilla dans ses poches, puis me tendit un flacon d'eau-de-vie. C'était une flasque de soldat, éraflée, bosselée, sa réserve personnelle d'alcool, et à titre de présent, à traiter avec respect. J'avalai une rasade frugale et la lui rendis.
« Condoléances pour votre ami, Sire Doré. »«
Merci. »«
Vous vous connaissiez depuis longtemps ?»«
Depuis l'enfance. »«
Ah bon ? Quelle tristesse. »«
Oui. »«
J'espère que l'autre garce aura mis du temps à crever. » Crible et Est étaient des types bien.
Oui. Mais avait-elle seulement péri? Et si elle avait survécu, présentait-elle encore un danger pour nous? Elle avait tout perdu, dragon, pain cru et serviteur forgisé. Elle possédait l'art, certes, mais je ne voyais pas de quelle façon elle pourrait l'employer contre nous. Si elle vivait encore, elle se trouvait aussi seule que moi. Pendant un long moment, je me demandais ce que j'espérais le plus. Qu'elle était morte, ou bien que, toujours en vie, elle souffrait le martyre. Finalement, j'eus ma réponse. Je m'en fichais. Je tombais de fatigue. Quelque temps après, Longue Mèche reprit.
« C'est vraiment vous ? Vous êtes bien le bâtard de chevalerie ?»
Oui. Il hocha lentement la tête, comme si cela expliquait bien des choses.
« Vous êtes plus dur à tuer que le chien d'an, »
fit-il à mi-voix. « Je vais me coucher. »«
Dormez bien, »
dit-il, et nous partîmes ensemble d'un rire amer. J'allais chercher mon paquetage avec mes affaires de couchage et les portai dans la tente du capitaine. L'ours s'agita légèrement quand j'installais mon lit le long du sien.
« J'ai froid !»
marmonna-t-il. « Moi aussi. Je vais me coucher dos à dos avec toi, ça nous réchauffera. » Je m'allongeais sous mes couvertures, mais le sommeil me fuit, chassé par les vaines questions qui tournaient dans ma tête. Quel sort la femme pâle avait-elle infligé au fou? Comment l'avait-elle tué? Était-il complètement forgisé quand elle l'avait achevé? Si le dragon l'avait entièrement bu, avait-il éprouvé une ultime souffrance à la mort de la créature de pierre? Interrogation stupide, stupide. L'ours se tourna pesamment contre moi.
« Je ne la trouve pas, »
dit-il à mi-voix. « Qui ça ? » demandai-je vivement. La femme pâle envahissait toutes mes pensées.
« Orti, je ne la trouve pas. »
Ma conscience me poignit soudain. Je n'avais pas songé à contacter ma propre fille, alors que l'homme qui l'avait élevée était en train de mourir.
« Je crois qu'elle a peur de dormir, »
reprit l'ours. « Ma foi, je ne l'en condamne pas. » Les condamnations, je les réservais pour moi-même.
« On va rentrer chez nous maintenant ?»«
Oui. »«
Mais on n'a pas tué le dragon ?»«
Non, c'est vrai. » Suivit un long silence. J'espérais qu'il s'était endormi, mais il demanda dans un murmure.
« On va rentrer en bateau ?»
Je poussai un soupir. Alors que je croyais avoir touché le fond, sa préoccupation puérile parvenait à m'accabler davantage. Je m'efforçais d'éprouver de la compassion pour lui, mais j'eus du mal. Il n'y a pas d'autre moyen, l'ours, tu le sais bien.
J'ai pas envie.
Je ne te le reproche pas.
Moi non plus, je ne t'en veux pas.
Il soupira lui aussi, se tut un moment et reprit.
Alors, c'était ça notre aventure. Et le prince et la princesse Marie, ils vivent heureux, et ils ont beaucoup d'enfants qui illuminent leur vieillesse. »
Il avait dû entendre cette dernière phrase mille fois. Elle servait en général aux ménestrels à clore les contes héroïques. « Peut-être, » répondis-je sans m'engager. « Peut-être. »
« Et nous, qu'est-ce qui nous arrive ?»
Longue Mèche entra et se mit sans bruit à préparer son lit. À en juger par ses gestes ralentis, il avait dû faire un sort à son eau de vie. Nous, nous reprenons le cours de notre existence, lourd. Tu vas retourner à Castelserre servir le prince, et quand il deviendra roi, tu resteras près de lui. Je m'efforçais de me rapprocher de sa vision d'un dénouement heureux. Et tu auras une belle vie, avec des gâteaux roses au sucre, et de nouveaux habits chaque fois que tu en auras besoin.
« Et Orti ?»
enchaîna-t-il d'un ton réjoui.
« Elle est au château ? Elle va m'apprendre à faire de beaux rêves. Enfin, c'est ce qu'elle a dit avant toutes les histoires avec les dragons. »«
Vraiment ? Tant mieux. » Là-dessus, il se prépara à se rendormir, et peu de temps après, sa respiration prit le rythme lent du sommeil. Je fermais les yeux en songeant que peut-être Orti pourrait m'apprendre, à moi aussi, à faire de beaux rêves. Mais trouverais-je un jour le courage de me présenter devant elle? Non. je ne voulais pas y penser pour l'instant. Car il fallait alors que je m'imagine aussi en train de lui révéler l'état de Burick.
Et vous, quel projet avez-vous, Sir Fitz-Chevalerie ?
La question de Longue Mèche tombait comme du ciel.
Vous parlez d'un autre, répondis-je à mi-voix. Moi, je vais rentrer au Ciduché et poursuivre ma vie de Tom Blaireau.
J'ai l'impression que pas mal de gens connaissent votre secret aujourd'hui.
Ils savent tenir leur langue, à mon avis, et ils la tiendront à la demande du prince de voir. Il s'agita sous ses couvertures.
Certains n'obéiraient à cet ordre que s'il venait de Sir Fitz-Chevalerie lui-même.
Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire, puis répondis en m'efforçant de réprimer mon hilarité. Sir Fitz-Chevalerie leur serait extrêmement reconnaissant de s'y plier.
Très bien, mais c'est quand même du gâchis. Vous méritez mieux. Tenez, la gloire, les hommes qui savent vos exploits et les saluent à leur juste valeur. Vous n'avez pas envie que vos actions restent gravées dans les mémoires.
Je n'eus pas à réfléchir longtemps. Qui ne s'est pas essayé à ce petit jeu, tard le soir, le regard plongé dans un feu mourant? J'avais parcouru si souvent cette route des possibles que j'en connaissais tous les carrefours et attrapoirs. Je préférerais qu'on oublie les actes que j'ai commis, et je donnerais tout ce que je possède pour oublier les gestes que le devoir me dictait et que je n'ai pas accomplis. Et la conversation s'acheva là. Le sommeil me saisit sans doute car j'en émergeais à l'heure grise qui annonce l'aube. Je quittai discrètement mes couvertures pour ne pas déranger l'ours et me rendis tout droit au chevet de Burick. L'Est dormait, roulé en boule à côté de lui, la main dans la sienne. Mon vif me disait que le maître des écuries s'éloignait de nous. Il allait mourir. Je pénétrai dans la tente d'Imbre et de voir et les réveillai. J'ai besoin de vous, leur dis-je. Le prince me regarda d'un œil embrumé par-dessus ses couvertures. Le vieux conseiller se redressa lentement sur son lit, averti par mon ton qu'il s'agissait d'une affaire grave.
« En quoi ?»«
Je veux que le clan tente de guérir Burick. » Comme il restait sans répondre, j'ajoutai « Tout de suite, avant qu'on ne puisse plus le rattraper. »
« Tout le monde va comprendre que l'ours et toi tenez des rôles plus importants qu'il n'y paraît, » observa Imbre. « Je me garde d'intervenir sur ma blessure justement à cause de cela. Naturellement, mon estafilade n'a rien à voir avec la gravité de l'état de Burick. »
De toute manière, tous mes secrets paraissaient s'éventer sur cette île. Si je dois en supporter les conséquences, autant que ça en vaille la peine, au nom de ce que j'ai perdu. J'aimerais renvoyer l'Est à Molly, accompagné de son père.
L'époux de sa mère, fit Imbre à mi-voix.
Croyez-vous que je ne le sache pas, que j'ignore ce que cela entraîne? Allez réveiller l'ours, dit le prince en rejetant ses couvertures. Vous souhaitez agir vite, mais je vous conseille de lui donner un bon petit déjeuner avant que nous nous mettions au travail. Il ne peut pas se concentrer quand il a faim, et il n'est pas au mieux de sa forme le matin, aussi qu'il ait au moins le ventre plein.
« Ne vaudrait-il pas mieux bien réfléchir avant de... »
De voir interrompit le vieil assassin. « Fitz ne m'a jamais rien demandé jusqu'ici. Je compte accéder à sa prière, Sir Imbre, et sans attendre, du moins le plus vite possible, dès que l'ours se sera restauré. » Il entreprit de s'habiller. Avec un grognement de douleur, le vieillard quitta son lit.
« Je vous signale que j'avais déjà réfléchi à la solution que propose Fitz. » « Tout le monde, à part moi, aurait-il oublié que Chevalerie a fermé Burick à l'art ?»
fit-il d'un ton las. « Nous pouvons toujours essayer, » répliqua Devoir avec entêtement. Et nous essayâmes. La préparation du repas de l'ours me parut interminable. Et tandis qu'il le consommait avec soin et minutie, comme à son habitude, je m'efforçais d'expliquer notre intention à l'Est. Je redoutais de lui laisser trop d'espoir, mais en même temps, je tenais à ce qu'ils comprennent les risques de l'entreprise. Si la réparation de l'organisme brisé de Burick puisait excessivement dans ses réserves et qu'il mourût, je ne voulais pas donner à l'enfant l'impression que nous l'avions tué par témérité. Je m'attendais à éprouver des difficultés à exposer clairement mon projet, mais j'eus beaucoup plus de mal à obtenir de l'Est qu'il prit le temps de m'écouter.
Je lui demandai de m'accompagner à l'écart, en retrait de l'ours qui soignait les outriliens blessés, mais il refusa de quitter le chevet de son père, fût-ce un instant, et je me résignai à lui parler sur place. Dès que j'évoquais l'éventualité d'une intervention du prince pour guérir Burik par la magie des loin-voyants, il manifesta un enthousiasme si avide que mes mises en garde et mes rappels d'un échec possible restèrent sans doute lettres mortes. Il avait l'air d'un naufragé, avec ses cernes noires et ses yeux caves de chagrin. S'il avait dormi, le sommeil ne l'avait pas revigoré. Je lui demandai s'il avait mangé, et il secoua la tête comme si cette seule perspective l'épuisait. « Quand allez-vous commencer ? » fit-il d'un ton pressant pour la troisième fois, et je rendis les armes. « Dès que le reste du clan arrivera, » dis-je. Au même instant, Ambre écarta le rabat de la tente improvisée que nous avions érigée au-dessus du traîneau et entra, devoir et lourd sur les talons. Le nombre de personnes qui s'entassaient désormais sous la construction menaçait de la jeter à terre, et, avec un geste d'impatience, le prince proposa « Démontons cet abri. Il nous gênera plus qu'il ne nous protégera pendant l'opération. » Pendant que l'Est se mordillait la lèvre avec fébrilité, Longue-Mèche et moi abattîmes la toile, puis l'empaquetâmes. Le temps que nous achevions notre tâche, la rumeur de notre entreprise avait circulé dans le camp, et tous se rassemblaient pour y assister. Je n'appréciais guère l'idée d'œuvrer en public, et encore moins de révéler l'étroitesse de ma relation avec le prince, mais je n'y pouvais rien. Nous nous réunîmes autour de Burik. En vain, j'exhortais l'Est à me laisser sa place pour que je puisse poser les mains sur son père, et pour finir, Tram l'entraîna un peu plus loin. Il resta derrière le garçon, les bras serrés sur lui comme sur un enfant beaucoup plus jeune, dans une étreinte rassurante qui mêlait à la fois vif et contact physique. Je lui adressai un regard de remerciement, et il répondit par un hochement de tête qui m'enjoignait de me mettre au travail. Humbre, Devoir et Lourd se donnèrent la main comme s'ils s'apprêtaient à quelque farandole enfantine. Parcouru d'un frisson d'angoisse à la perspective de ce que nous allions tenter, je m'efforçais de ne pas prêter attention à la curiosité avide des spectateurs. Niel, le ménestrel, ouvrait grand les yeux, tendus. Les outriliens, tant ceux du Hedgurd que les rescapés, nous observaient avec méfiance. Péotr se tenait un peu en retrait, ses nièces et sa sœur près de lui, l'air grave et attentif. Quand j'avais quelques années de plus que l'Est, j'avais essayé, sur la suggestion de Burik, de puiser de l'énergie en lui, comme mon père autrefois. J'avais échoué, mais pas seulement parce que j'ignorais comment m'y prendre. Chevalerie avait employé Burik comme servant du roi, source de vigueur pour ses opérations d'art. Toutefois, l'homme ainsi utilisé devient aussi un canal qui permet d'accéder à l'utilisateur, si bien que le prince l'avait fermé aux autres artiseurs afin que nul ne pût l'attaquer ni l'espionner par ce biais. Aujourd'hui, je devais appliquer toute ma force et celle du clan de Devoir à la barrière dressée par mon père, dans l'espoir de l'enfoncer et de pénétrer dans l'âme de Burik. Je tendis une main et Lourd la prit. Je posai l'autre sur la poitrine du mourant. Mon vif m'apprenait qu'il ne restait plus dans son corps qu'à contre-cœur. L'animal qu'il habitait était blessé au-delà de toute possibilité de guérison. Si son organisme eût été un cheval, Burik l'eût déjà achevé. J'écartais cette pensée démoralisante, tâchais de faire taire mon vif et de donner à ma magie royale le pointu d'une épée. Puis, je fis le vide dans mon esprit, en n'y laissant que ma conscience d'art, et cherchai un point où transpercer le rempart qui murait le père de l'Est. Je n'en trouvais pas. Je sentais le clan qui flottait autour de moi, impatient, prêt à agir, mais je ne voyais nulle part où exercer cette ardeur. Je percevais la présence de Burik, mais je glissais sur sa surface, incapable de la pénétrer. Je ne savais pas comment mon père l'avait fermé, ni comment le rouvrir. J'ignore combien de temps je m'acharnais en vain à pratiquer une brèche dans ses murailles. Je me souviens seulement que Lourd finit par lâcher ma main pour essuyer sa paume moite sur son pourpoint.
« Il est trop difficile, » déclara-t-il. « On va s'occuper plutôt de celui-là.
et sans consulter personne, il se pencha par-dessus Burick pour poser la main sur l'épaule d'un des Outriliens blessés. Je n'avais plus de contact physique avec Lour, et pourtant, je perçus aussitôt l'homme dans son entièreté. Il était resté l'esclave de la femme pâle pendant un nombre d'années indéterminé. Il s'inquiétait de son fils. Avait-il prospéré dans sa maison maternelle? Et aussi des trois de sa sœur. Il avait promis de leur apprendre à manier l'épée. Quelqu'un l'avait-il fait à sa place? Ces questions le tourmentaient autant que sa blessure, une grande coupure que lui avait infligée l'ours, qui lui avait ouvert la poitrine et entaillé le muscle du bras. Il avait perdu beaucoup de sang et n'avait plus guère de force. S'il trouvait l'énergie de survivre, son organisme finirait par se remettre. Tout à coup, et contradictoirement, sa chair se mit à se ressouder. Il poussa un hurlement de souffrance et crispa la main sur la plaie qui se refermait. Comme un vêtement déchiré qui se raccommode seul, les fibres tranchées se tendirent les unes vers les autres. Les fragments morts ou irréparables s'expulsèrent d'eux-mêmes. Avec une sorte d'horreur, je vis les excroissances qui le défiguraient fondre et disparaître. Par bonheur, nous avions affaire à un gaillard robuste, doté de solides réserves que son organisme brûlait à présent sans retenue. Il se dressa soudain sur son lit, arracha ses pansements imprégnés de sang coagulé et les jeta loin de lui. Il y eut un hoquet de surprise générale. Régénéré, sa peau luisait, non du brillant uni du tissu cicatriciel, mais du lustre sain d'un corps d'enfant, bande pâle et imberbe en travers de son torse basané. Il contempla sa peau toute neuve, les yeux écarquillés, puis, avec un éclat de rire guttural où perçait la stupéfaction, il s'asséna un coup de poing sur la poitrine, comme pour se convaincre de sa guérison. L'instant suivant, il sautait de son lit et s'en allait cabrioler, pieds nus dans la neige, puis revenait aussitôt, soulevait lourd et le faisait tournoyer avant de reposer le petit homme ahuri sur ses jambes courtaudes. En outrilien, il le remercia en lui donnant le titre de « main d'Eda », expression dont le sens me demeura obscur. L'ours le comprit, lui, car il se rendit promptement au chevet de l'autre blessé, puis, rejetant ses couvertures, indiqua à Lour de le rejoindre. Le simple d'esprit ne nous adressa pas un regard. Quant à moi, j'avais bien d'autres préoccupations. Je ne quittais pas des yeux lestes, qui me dévisageaient avec une expression devenue à la fois vide et désespérée. Je lui tendis la main dans un geste futile, mais il avala sa salive et se dirigea, non vers moi, mais vers Burick. Il se rassit près de son père et prit sa main dont les ongles s'assombrissaient. Puis, il leva vers moi des yeux interrogateurs. « Je regrette, » dis-je, alors que le second Outrilien se relevait guéri et qu'éclataient des exclamations d'étonnement. Il est fermé. Mon père a condamné son esprit pour empêcher les autres artiseurs d'avoir accès à lui. Je ne peux pas entrer en lui pour l'aider. » Il se détourna, les traits empreints d'une déception qui confinait à la haine, une haine qui ne paraissait pas spécialement tournée vers moi, mais plutôt vers l'instant, vers ceux qui se relevaient guéris et ceux qui s'en réjouissaient. Tram s'était écarté de lui pour le laisser digérer sa colère. Je ne vis aucun intérêt à tenter de lui parler pour le moment. Apparemment, Lour avait attrapé le tour de main pour guérir par l'art, et, sous la conduite discrète de Devoir, il alla s'occuper des deux hommes qui, la veille, avaient effacé au cautère les tatouages de la femme pâle. Bientôt, une peau lisse et claire remplaça le tissu suintant et cloqué. Alors, d'objet de dédain, il passa soudain aux yeux des Outriliens à celui de leur plus haute considération, et devint l'incarnation des mains d'Eda. J'entendis l'ours implorer le pardon du prince Devoir pour l'irrespect dont ils avaient fait preuve à l'égard de son serviteur. Il ne savait pas qu'il possédait le don d'Eda, mais mesurait désormais la valeur que lui accordait le prince et la raison pour laquelle il l'emmenait au combat. Voir l'ours s'illuminer de leur estime, autant qu'il avait souffert de leur mépris, me fit grincer des dents. Curieusement, je me sentais trahi qu'il pût si vite oublier leur façon de le rejeter. Pourtant, et sans en méconnaître le paradoxe,
Je me réjouissais aussi qu'il en fût capable, et je regrettais presque de ne pas jouir de sa simplicité d'esprit qui lui permettait de croire que l'expression des gens correspondait à leurs pensées. Humbre s'approcha de moi par derrière et posa une main légère sur mon épaule. Je tournai la tête vers lui avec un soupir, pensant qu'il voulait me confier une mission. Mais le vieillard passa le bras autour de mon cou, m'étreignit et murmura à mon oreille.
« Je suis navré, mon garçon. Nous avons agi au mieux de nos possibilités. Et je suis navré aussi pour la mort du fou. Nous avions nos points de désaccord, lui et moi, mais ce qu'il a fait pour Subtil, nul autre n'y serait parvenu, de même que pour Ketriken. Nous nous opposions cette dernière fois, mais crois-moi, je n'avais pas oublié les précédentes. Et en fin de compte, il a gagné la partie. »
Il lança un regard vers le ciel, comme s'il pensait y voir les dragons.
Il a gagné, mais il nous laisse nous débrouiller avec sa victoire. Les conséquences s'en révéleront sûrement aussi imprévisibles qu'il l'était lui-même, et cela l'amuserait sans doute beaucoup.
Il avait prédit qu'il mourrait sur cette île. Je ne l'ai jamais vraiment cru. Sans quoi, je n'aurais pas retenu certains de mes propos. Je soupirai brusquement, accablé par la futilité de pareilles réflexions et par le poids de toutes les résolutions que je n'avais pas tenues. Je cherchais en moi une pensée ou une émotion qui eût un sens, mais je ne trouvais rien. L'absence du fou m'emplissait entièrement et ne laissait de place à rien d'autre. Nous poursuivîmes notre trajet ce jour-là, et la plupart de la troupe était d'humeur radieuse. Burik occupait seul le traîneau désormais, silencieux et inerte, et il s'affaiblissait à mesure que passaient les heures. L'Est l'escortait d'un côté, moi de l'autre, et nous ne parlions pas. Lors des pauses, je faisais couler un filet d'eau entre les lèvres de son père. Chaque fois, il l'avalait. Malgré tout, je le savais à l'agonie et je ne le cachais pas à son fils. La nuit venue, nous fîmes halte et préparâmes le repas. L'ours ne manquait plus d'amis prêts à pourvoir à ses besoins, et ses marques d'attention l'enchantaient. Pour ma part, je m'efforçais de ne pas me sentir abandonné. Depuis le début du voyage, je formais des vœux fervents pour être débarrassé de sa responsabilité, et à présent qu'on m'en déchargeait, je regrettais le dérivatif qu'elle me fournissait. Tram apporta de quoi manger à l'Est, et me fit signe d'interrompre ma veillée pour aller me reposer. Mais, comme je m'éloignais de Burik et de son fils, la nuit me sembla plus froide tout à coup. Je m'arrêtai près du feu de longue mèche, où il me fit profiter des derniers potins du groupe. Certains des Outriliens que nous avions libérés se trouvaient au service de la femme pâle depuis l'époque de la guerre des pirates rouges. Ils étaient des centaines à l'origine. Mais elle en avait nourri impitoyablement ses dragons. Tout d'abord installée sur la grève proche de la carrière, elle avait commencé à craindre, après la défaite, les représailles des Outriliens. Or, depuis le début, elle avait résolu d'anéantir Glacefeu, et la légende affirmait que, sous le glacier, existaient depuis des générations des salles et des tunnels. Elle avait attendu que la marée basse annuelle ouvre le passage périlleux qui y menait, et une fois à l'intérieur, ces hommes avaient taillé le plafond de glace afin de créer une issue accessible quasiment à chaque reflux de la mer. Elle avait détruit son village côtier et ordonné à ses esclaves d'emporter le plus grand des deux dragons de pierre pour le reconstituer dans l'immense salle de son palais souterrain. Tâche prodigieuse, mais la femme pâle n'avait compté ni le temps, ni les vies humaines. Elle avait résidé là depuis la fin de la guerre en extorquant des tribus des clans qui la craignaient encore, ou espéraient revoir leurs membres qu'elle gardait prisonniers. Elle les forçait à de cruels marchés. En échange d'une cargaison de vivres, elle pouvait rendre une dépouille ou promettre de ne jamais relâcher un otage afin d'épargner l'humiliation à sa famille. Je demandai à Longue-Mèche si, à son avis, l'emplacement de sa tanière était de notoriété publique dans les îles d'outre-mer. Il eut un geste négatif.
« J'ai l'impression que les gens en éprouvaient de la honte. Aucun de ceux qui payaient les prébendes ne voulait en parler. »
Je hochai la tête. Dans le clan du Narval,
Rares sans doute étaient ceux qui connaissaient le sort exact d'Ertre et de Cossy. On savait seulement qu'elles avaient disparu. Je n'ignorais pas qu'on pouvait parfaitement dissimuler même les secrets les plus énormes. La femme pâle avait donc bâti son royaume grâce à la main-d'œuvre de guerriers à demi forgisés. Quand l'un d'eux se blessait, devenait trop vieux ou indocile, elle le donnait au dragon. De nombreuses vies avaient ainsi fini dans la pierre, victimes de sa volonté futile de l'éveiller. Nous étions arrivés alors que sa puissance déclinait. Au lieu de centaines d'esclaves, elle ne disposait plus que de quelques dizaines d'hommes et de femmes. Son dragon et les travaux forcés avaient décimé leur rang. Elle avait aussi essayé de tuer Glacefeu, mais n'avait jamais réussi qu'à le tourmenter. Elle craignait de le dégager de la glace qui l'emprisonnait et n'avait découvert aucun moyen efficace de percer l'armure de ses écailles et de sa peau épaisse. La peur et la haine qu'il lui inspirait n'étaient un mystère pour aucun de ses serviteurs.
« Je ne comprends toujours pas, » fis-je à mi-voix, pendant que nous contemplions les flamèches mourantes de son petit feu. « Pourquoi se pliait-il à ses ordres? Comment parvenait-elle à se faire obéir par des forgisés? Ceux à qui j'ai eu affaire en serre ne montraient nulle allégeance à quiconque. »«
Je n'en sais rien. J'ai servi pendant la guerre des pirates rouges, et je vois ce que vous voulez dire. Les hommes à qui j'ai parlé ne gardent que des souvenirs imprécis du temps qu'a duré leur soumission. » Des souvenirs de souffrance, sans plaisir, sans odeur, sans goût. Ils obéissaient parce que c'était plus facile que s'insurger. On jetait les rebelles en pâture aux dragons. Je pense qu'il s'agit ici d'un usage plus raffiné de la forgisation que ce que nous avons connu dans les Siduchés. Un autre Ilien m'a expliqué que, quand elle l'a dépouillé de tout sentiment d'affection et de loyauté pour son clan et sa famille, elle est restée la seule qu'il pouvait servir, et il l'a servie. Bien qu'il se dégoûte maintenant en songeant aux actes qu'il a commis en son nom. »
En quittant Longue-Mèche pour retourner auprès de Burik, j'aperçus le prince de Voir et la Narcheska entre les tentes. Ils se tenaient debout, les mains enlacées, la tête penchée l'un vers l'autre. Comment la mère d'Eliania prenait-elle leur prochain mariage? Cette union devait lui apparaître comme une alliance soudaine et incompréhensible avec un ennemi de toujours. L'accepterait-elle quand elle apprendrait que sa fille devrait quitter sa maison maternelle pour régner sur une contrée lointaine? Et Eliania elle-même, qu'en pensait-elle? Elle venait à peine de retrouver sa mère et sa sœur. Se résoudrait-elle à les abandonner si vite pour se rendre au Siduché? Je trouvais Tram en compagnie de Lest et Burik. Vieillie par le chagrin, l'enfant avait l'air presque adulte. Sans un mot, je m'assis près d'eux sur le bord du traîneau. On avait bricolé un abri pour le protéger du vent nocturne, et une chandelle l'illuminait. Malgré les couvertures entassées sur lui, Burik avait les mains glacées. D'une voix où ne perçait nul espoir, Lest me demanda « Vous ne pourriez pas essayer encore? Les autres, ils ont guéri tout de suite, et maintenant ils bavardent, ils rient avec leurs amis autour du feu. Pourquoi ne pouvez-vous pas soigner mon père ?» Je le lui avais déjà expliqué. Je le lui expliquais à nouveau. Parce que Chevalerie l'a fermé à l'art il y a longtemps. Savais-tu que ton père a secondé le prince Chevalerie? Qu'il a joué auprès de lui le rôle de servant du roi pour lui fournir une réserve d'énergie quand il employait sa magie? Il secoua la tête, les yeux pleins de regrets. Je ne le connais guère autrement que comme mon père. C'est un homme réservé. Il ne nous a jamais parlé de son enfance, comme maman nous raconte des histoires sur Bourg de Castelserre et son propre père. Il m'a appris à m'occuper des chevaux, à les soigner, mais c'était avant que... » Il s'interrompit, puis reprit avec un effort. « Avant qu'il découvre que j'avais le vif, comme lui. De ce jour, il a tout fait pour me tenir à l'écart des écuries et des animaux, et je n'ai plus eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec lui. » Il ne mentionnait guère le vif, sinon pour m'interdire de communiquer d'esprit à esprit avec aucune bête.
Il avait à peu près la même attitude avec moi quand j'étais petit, dis-je. Je me grattais la nuque, soudain las et saisi d'incertitude. Qu'est-ce qui m'appartenait? Et qu'est-ce qui appartenait à Burik? Lorsque j'ai grandi, il m'a parlé davantage. Il a éclairé ma lanterne sur différents sujets. Je pense qu'il t'en aurait révélé plus sur lui-même à mesure que tu mûrissais. » Je marquai une pause. La main de Burick dans la mienne, je me demandais s'il m'aurait pardonné ce que je m'apprêtais à faire, ou s'il m'en aurait remercié. Je me rappelle la première fois où j'ai vu ton père. Je devais avoir dans les 5 ans, je crois. Un des hommes de vérité m'a conduit dans la salle de réfectoire des soldats, dans les vieux casernements d'Œil de Lune. Le prince chevalerie et la majorité de sa garde étaient absents, mais ton père ne les avait pas suivis, car il se remettait encore de sa blessure au genou, celle qui le fait boiter. Il l'avait reçue en s'interposant entre un sanglier et mon père que l'animal allait éventrer de ses défenses. Bref, Burick se trouvait dans une cuisine remplie de gardes, jeune homme plein de fougue, sombre, violent, le regard dur, et voilà qu'on me confiait brusquement à lui, sans nous prévenir ni l'un ni l'autre. Tu imagines la scène. Aujourd'hui encore, je me demande ce qu'il a bien pu penser quand le soldat m'a posé sur la table devant lui, en lui annonçant que j'étais le bâtard de chevalerie, et qu'il allait devoir s'occuper de moi. L'Est ne put empêcher le petit sourire d'étirer lentement ses lèvres, et la nuit s'étendit doucement autour de nous, tandis que je continuais d'évoquer le jeune homme impétueux qui m'avait élevé. Tram resta quelque temps avec nous, et j'ignore à quel moment il s'éclipsa. Quand la chandelle se mit à couler, nous nous allongeâmes de part et d'autre de Burick pour lui tenir chaud, et je poursuivis mes réminiscences dans le noir jusqu'à ce que l'Est s'endormît. J'eus l'impression que ma perception de Burick par mon vif avait regagné en vigueur, mais peut-être cela tenait-il seulement au fait que je me remémorais la place qu'il avait occupée dans mon existence. Comme je me rappelais les épisodes où il m'avait dispensé ses encouragements et imposé son autorité, distribué punitions et compliments, je me rendais compte qu'à ces moments-là, il avait dû rogner sur sa vie pour s'occuper de celle d'un petit garçon, et je prenais conscience, avec un sentiment d'humilité, que ma dépendance à sa personne avait sans doute façonné son existence, autant qu'elle avait influencé la mienne. Le lendemain matin, quand je lui donnai à boire, ses paupières battirent vaguement. Puis, l'espace d'un instant, il me regarda, avec l'expression accablée d'un prisonnier.
« Merci, »
chuchota-t-il d'une voix sifflante. Mais je ne crois pas que ce fût pour l'eau.
« Papa ?»
fit l'Est avec empressement. Mais son père avait de nouveau perdu connaissance. Nous progressâmes rapidement ce jour-là, si bien qu'au soir tombant, nous décidâmes de poursuivre notre route pour tenter de quitter le glacier avant la nuit. Cette idée suscita l'enthousiasme général, car nous étions tous là de camper sur la glace. Mais la distance à parcourir se révéla plus grande que prévu. Nous continuâmes de marcher et finîmes par dépasser la fatigue pour nous embourber dans ce marécage où l'on refuse avec entêtement de reconnaître qu'on s'est trompé. Il faisait nuit noire quand nous arrivâmes aux abords de la grève. Nous aperçûmes le spectacle réconfortant de feux de guet et, avant que j'eusse le temps, l'esprit noyé dans la brume de l'épuisement, de songer qu'un seul foyer aurait dû suffire pour deux gardes, le qui-vive de Perdreau retentit dans l'obscurité. Le prince de Voir y répondit, et nous entendîmes plusieurs voix pousser des exclamations de joie. Toutefois, nul parmi nous n'était préparé au cri de bienvenue que Crible nous lança. Je me le rappelais tel que je l'avais vu la dernière fois, et je sentis les poils se hérisser sur ma nuque. Un instant, l'espoir irrationnel naquit en moi de retrouver le fou au milieu des hommes qui nous attendaient. Puis les paroles de Péotr me revinrent et la peine me submergea. Nous parvînmes dans les derniers au bivouac sur la grève, et déjà on s'y accueillait, l'on y échangeait des nouvelles et des récits dans un brouhaha indescriptible. Il s'en fallut de près d'une heure avant que je parvinsse à obtenir un compte-rendu cohérent des événements. Crible et plusieurs rescapés outriliens du palais de glace se trouvaient là. Ils avaient recouvré leur esprit, sans doute au moment de la mort du dragon. Le jeune garde et ses compagnons de cellule avaient été tirés de leur geôle par un soldat de la femme pâle qui venait lui-même de récupérer sa personnalité. Ils avaient joint leurs forces pour chercher une issue, d'où Crible avait réussi à les conduire jusqu'à la plage. Ils ignoraient tous la raison pour laquelle ils avaient soudain repris leur sens, et nous passâmes le reste de la nuit à combler cette lacune. Imbre me fit mander dans sa tente le lendemain afin que j'écoute le témoignage complet de Crible au prince et à lui-même. Les soldats de la femme pâle les avaient capturés, Est et lui, car ils avaient commis l'erreur de surprendre des hommes en train de sortir par une issue secrète du royaume souterrain. Et il ne fallait surtout pas qu'ils puissent rapporter cette information au prince. Le jeune garde était incapable d'expliquer de façon rationnelle comment on l'avait forgisé. Le dragon y jouait un rôle, mais chaque fois qu'il essayait d'aborder ce sujet, il se mettait à trembler si violemment qu'il devait s'interrompre. Pour finir, et à mon grand soulagement, Imbre renonça à lui arracher ce renseignement. En vérité, mieux valait qu'il restât perdu à jamais, me semblait-il. Crible se montra stupéfait d'apprendre que le fou et moi l'avions aperçu dans sa prison. Il affirma qu'il ne me reprochait pas de l'y avoir laissé, que si j'avais forcé la porte, il m'aurait certainement attaqué pour s'emparer de mes vêtements. Pourtant, je lus dans ses yeux une humiliation si grande d'avoir été vu en pareil état que, j'en eus la certitude, notre amitié n'y résisterait pas. Quant à moi, je ne pensais pas réussir à entretenir une relation naturelle avec un homme que j'avais abandonné à la mort. Redeviendrait-il un jour le jeune homme insouciant qu'il avait été ? Il avait jeté un regard dans un recoin obscur de lui-même, et il devrait vivre jusqu'à la fin de ses jours avec ce souvenir. Il avoua devant nous avoir tué Est. Il n'avait plus de chemise, car il en avait utilisé les lambeaux pour s'emmailloter les mains afin de se protéger du froid, et il se rappelait le soin avec lequel il avait projeté d'assassiner son camarade blessé, puis de détrousser son cadavre pendant que les autres forgisaient dormaient. Il gardait aussi le souvenir de la femme pâle, leur expliquant qu'il s'agissait d'une sorte d'épreuve. Ceux qui survivraient à 2 semaines d'emprisonnement gagneraient la liberté de la servir et des repas à heures régulières. Il nous raconta cela avec un sourire de dément, les dents serrées, comme pour s'empêcher de vomir. Et il ajouta qu'alors, il n'imaginait pas meilleur sort que la servir et manger selon des horaires ponctuels. 2 des Outriliens revenus avec lui appartenaient au clan du Narval. Disparus depuis longtemps et présumés morts, ils s'étaient vus accueillir avec une joie sans bornes par Péotre. Depuis plus d'une décennie, la femme pâle s'en prenait à leur clan, dont elle avait décimé la population masculine avant de le réduire au désespoir en s'emparant de la Narcheska régnante et de sa fille cadette. Le retour de ces guerriers ne fit qu'accroître le statut de héros dont jouissait le prince auprès des membres du Narval. Quand Imbre finit d'interroger le jeune garde, je posai les 3 questions qui me brûlaient les lèvres. Je n'obtins que des réponses décevantes. Crible n'avait pas vu le fou, ni pendant sa captivité, ni lors de son évasion. Il n'avait pas vu la femme pâle, pas même son cadavre, après sa libération. Mais je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter. Celui qui m'a tiré de ma geôle, Refke, a assisté à sa fin. Elle est devenue, tout à coup, à moitié folle. Elle s'est mise à crier que tout le monde la trahissait, tout le monde, et que seul son dragon pouvait encore lui permettre de remporter la victoire. Elle a dû ordonner qu'on amène au moins 20 hommes, et l'un après l'autre, on les a plaqués de force contre la sculpture, avant de les égorger. D'après Refke, la pierre buvait le sang. Mais ça n'a pas suffi à la satisfaire. Furieuse, elle a hurlé qu'il devait disparaître complètement dans le dragon, qu'il ne s'éveillerait que si quelqu'un s'y fondait entièrement. Nous le regardions figé sur place, et il nous dévisagea tour à tour d'un air perplexe. « Je ne parle pas très bien outrilien. Je sais que ça paraît insensé. Comment quelqu'un aurait-il pu entrer dans le dragon ?»« Mais c'est ce que j'ai cru comprendre de ce que disait Refke. Je me suis peut-être trompé. »
Non. Je pense au contraire que tu as parfaitement compris.
Continue, le priai-je. Pour finir, elle a donné l'ordre de livrer pain cru au dragon. D'après Refke, ceux qui ont délivré le vieux guerrier de ses fers ont sous-estimé sa force et sa haine de la femme pâle. Ils l'ont saisi, l'ont entraîné vers la créature de pierre, tandis qu'il freinait des 4 fers. Tout à coup, il les a pris à contre-pied. Il s'est précipité en avant sur la femme pâle, l'a attrapée par les poignets et s'est mis à rire aux éclats en hurlant qu'ils allaient se fondre ensemble dans le dragon et s'envoler pour assurer la victoire des îles d'outre-mer, que c'était la seule façon de l'emporter. Puis, il a reculé vers la statue en tirant la femme,
qui se débattait en criant de terreur, et là... » Il s'interrompit à nouveau. « Je me contente de vous répéter ce que Refke m'a raconté. Ça ne rime à rien, mais... »«
Poursuivez !»
coupa Imbre d'une voix rauque. Pincru a pénétré dans le dragon. Il s'y est comme immergé sans lâcher la femme pâle qu'il continuait à entraîner à sa suite.
« Elle s'est fondue au dragon ?» m'exclamai-je.
« Non, pas complètement. Pincru a disparu en l'entraînant avec lui, si bien qu'elle s'est retrouvée plongée dans la pierre jusqu'au poignet. Elle hurlait à ses gardes de l'aider, et finalement, deux d'entre eux l'ont prise à bras le corps et tirée en arrière, mais... ses mains n'existaient plus. Elles étaient restées dans le dragon. »
Le prince crispait le poing contre ses lèvres, et je m'aperçus que je tremblais.
« Est-ce tout ?»
demanda Imbre. Comment parvenait-il à conserver son calme ?
Pratiquement. On aurait dit qu'elle avait l'extrémité des bras brûlés. Pas une goutte de sang, rien que des moignons cautérisés, à en croire Refke. Elle les regardait comme pétrifiés, et pendant ce temps, le dragon s'est animé. Quand il a commencé à bouger, il a levé la tête trop haut, et d'énormes morceaux du plafond ont dégringolé. Tout le monde s'est sauvé, à la fois pour échapper aux blocs de glace et par peur du monstre. Refke se cachait toujours quand il est redevenu lui-même tout à coup.
Crible se tut soudain, puis reprit avec réticence.
« Je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai ressenti. J'étais dans ma cellule. J'essayais de ne pas m'endormir, sinon les autres allaient me tuer. Et puis, j'ai baissé les yeux sur Est, qui gisait, mort, par terre. Et brusquement, sa disparition m'a touché parce que c'était mon ami. »
Il secoua la tête et acheva dans un murmure.
Alors, je me suis rappelé que je l'avais tué.
Vous n'étiez pas responsable, dit le prince à mi-voix.
Mais je l'avais tué quand même, de mes propres mains.
Je l'interrompis avant qu'il eût le temps de songer davantage à son geste. Et comment es-tu sorti ? Il parut presque reconnaissant de ma question.
Refke nous a ouvert la porte et nous a fait traverser tout le palais. C'est comme un immense dédale de glace. Finalement, nous sommes sortis par une espèce de fissure dans la paroi qui s'ouvrait dans le flanc du glacier. Là, plus personne ne savait quoi faire. Les autres ne connaissaient pas d'autre abri où se réfugier. Mais j'ai aperçu la mer au loin, et je leur ai dit que si nous nous dirigions vers elle, puis suivions la côte, nous finirions obligatoirement par atteindre le camp, même s'il fallait effectuer tout le tour de l'île. Nous avons eu de la chance. Nous avons pris le trajet le plus court, et nous sommes arrivés avant vous. »
Il me restait une dernière question à poser. Mais il y répondit avant que j'eusse le temps d'ouvrir la bouche.
« Tu sais comme le vent souffle la nuit, Tom. La neige qu'il soulève a dû effacer nos traces à l'heure qu'il est. Et même si j'en avais envie, je ne retrouverais sans doute pas la route que nous avons suivie. »
Il respira profondément, puis ajouta avec réticence.
« Un des Outréliens serait peut-être d'accord pour tenter le coup, mais pas moi, jamais. Je ne veux pas y retourner, ni même m'en rapprocher. »«
Nul ne vous le demandera, »
lui assura Imbre, et il avait raison. Je n'insistais pas. L'aube pointait quand je rejoignis Burik et l'Est. L'enfant dormait à côté de son père, dont une main pendait hors de ses couvertures. En la replaçant au chaud, je m'aperçus qu'elle était serrée sur une boucle d'oreille en bois, que je reconnus. Le fou l'avait sculptée, et je le savais, je trouverais à l'intérieur le clou d'affranchissement que la grand-mère de Burik avait gagné au prix de dures épreuves. S'il avait trouvé la force de la décrocher de son lobe, il fallait qu'il y attachât beaucoup d'importance, et il me sembla deviner son intention. Devoir avait lâché le pigeon qui regagnerait Zilig afin d'annoncer au Edgurd l'achèvement de notre quête. Néanmoins, quelques jours s'écouleraient avant que les navires viennent nous chercher. Entre-temps, nos maigres réserves de vivres devraient alimenter un large groupe, perspective peu réjouissante, mais que nul, je pense, ne prit au tragique, après ce que nous venions de vivre. Je m'isolais un moment avec l'Est, assis près de son père qui continuait à décliner, et je lui narrais l'histoire du clou d'oreille, tout en m'évertuant à extraire l'objet de son écrin de bois. Finalement, vaincu par la complexité du travail du fou, je dus briser l'enveloppe pour mettre au jour le bijou bleu et argent, aussi scintillant qu'à l'instant où Patience me l'avait montré pour la première fois. Et, comme elle alors, je me servis de son extrémité pointue pour percer l'oreille de l'Est, afin qu'il pût le porter. Je fis preuve d'un peu plus de douceur qu'elle. J'utilisais de la neige comme un sensibilisant avant de procéder à l'opération. « Ne l'enlève jamais, lui dis-je, et rappelle-toi toujours ton père, tel qu'il était. » « Je le promets, » répondit-il à voix basse. Il palpa le clou d'une main prudente. Je gardais un souvenir vif de son poids au bout de mon oreille douloureuse. Puis, il essuya le sang qui maculait ses doigts sur son pantalon et reprit. « Je regrette de l'avoir tiré, maintenant. Si je l'avais encore, je vous la donnerais. » « Quoi donc ?»« La flèche dont Sire Doré m'avait fait cadeau. Je la trouvais laide, mais je l'avais acceptée par politesse. Et puis, alors que toutes les autres ricochaient sur le dragon, celle-là a traversé sa carapace. Je n'avais jamais rien vu de pareil. »
« Comme tout le monde, je pense. »
« Sauf Sire Doré, peut-être. Il m'avait dit que c'était un vilain bout de bois, mais qu'il me rendrait peut-être bien service en cas de besoin. Il avait parlé de lui-même comme d'un prophète ce soir-là. Avait-il prévu que la flèche grise tuerait le dragon, à votre avis ?»
Je réussis à sourire.
Même de son vivant, je ne savais jamais s'il avait vraiment connu les événements à l'avance ou bien s'il remaniait habilement ses propos, après coup, pour le faire croire. Dans le cas présent, toutefois, il semble avoir eu raison. « Oui, mais avez-vous vu mon père? Avez-vous vu ce qu'il a fait? Il a arrêté net le monstre. Tram dit qu'il n'a jamais senti une telle puissance, une force capable de repousser un dragon. »
Il me regarda dans les yeux et me mit au défi de l'interrompre.
« D'après lui, elle se transmet parfois dans certaines familles du lignage, et j'en hériterai peut-être si j'emploie ma magie avec discipline et discernement. »
Je pris le menton de l'enfant dans ma main. Je sentis le froid du clou d'oreille au bout de mon pouce. Espérons-le. Notre monde a bien besoin d'une force telle que tu l'as décrit.
La tête de Longue Mèche apparut à l'entrée de notre abri.
« Le prince de Voir vous demande, Tom, » fit-il d'un ton d'excuse.
« J'arrive, » répondis-je. Je me tournai vers l'est. « Ça ne te dérange pas ?»«
Allez-y. Nous ne pouvons rien, ni vous ni moi, à part le veiller. »
« J'en reviendrai, » promis-je. Puis je sortis pour suivre le commandant de la garde. La tente du prince était bondée. Il s'y trouvait en compagnie d'Imbre, Lour, Péotre, Ertre, Cossy et l'Anarchesca. La lèvre inférieure de Lour saillait plus qu'à l'habitude, et je le sentis mécontent. Eliania, assise par terre, me tournait le dos, une couverture serrée sur ses épaules. Je saluai chacun, puis attendis la suite. Ce fut Devoir qui prit la parole. « Nous avons un petit problème avec les tatouages de l'Anarchesca. Elle voudrait les voir disparaître, mais Lour n'arrive à rien par l'art. Imbre croit que, comme vous avez effacé vos propres cicatrices, vous pourriez peut-être mieux réussir. »
« Une cicatrice et un tatouage se comparent difficilement, » dis-je, « mais je veux bien essayer. »
Le prince se pencha sur la jeune fille. « Eliania, acceptez-vous de les lui montrer ?» Elle ne répondit pas. Elle resta assise, le dos très droit, tandis que la réprobation se peignait sur les traits de sa mère. Enfin, lentement, sans un mot, elle courba le cou et laissa la couverture tomber de ses épaules. Je m'agenouillai, puis levai la lampe pour mieux y voir. Alors, mes mâchoires se crispèrent, et je compris pourquoi on avait pensé à moi. La beauté luisante des serpents et des dragons avait disparu. Les tatouages s'enfonçaient en creux dans la peau qu'ils tiraient, comme si on les y avait gravés au fer rouge, ultime geste de vengeance de la femme pâle, sans doute.
Ils lui font encore mal de temps en temps, murmura le prince.
Je m'interroge, dis-je. Peut-être Lour échoue-t-il à guérir l'Anarchesca parce que ses marquages ne sont pas récents. Aider l'organisme à effectuer une opération déjà en cours, c'est une chose,
Mais il s'agit ici de lésions anciennes, et le corps les a acceptées.
Pourtant, les vôtres se sont résorbées quand nous vous avons remis en état, fit observer le prince.
Elles ne sont pas à elles,
intervint Lourd d'un ton lugubre.
Je ne veux pas y toucher.
Sans chercher à percer le sens de ce commentaire sibyllin, je répondis à devoir. À mon sens, le fou m'a rétabli tel qu'il m'avait toujours vu, intact. Je n'avais nulle envie de m'étendre sur ce sujet, et tous le comprirent, je pense. D'une voix à peine tremblante, Eliania déclara.
« Alors, effacez-les au cautère et guérissez les brûlures. Peu importe les moyens, je veux seulement qu'on m'enlève ces tatouages. Je refuse de porter les marques de cette femme sur moi. »«
Non !» s'exclama le prince d'un ton horrifié. « Attendez, je vous en prie, » dis-je. « Laissez-moi essayer. » J'approchai la main de la Narcheska, puis interrompis mon geste. « Puis-je vous toucher ?» Elle courba le cou encore davantage, et je vis ses muscles se raidir, puis elle hocha la tête. Piotr nous dominait de toute sa taille, les bras croisés sur la poitrine. Je levai les yeux, croisai son regard, puis m'assis par terre derrière la jeune fille, et posai délicatement les paumes sur son dos. Il me fallut toute ma volonté pour les y maintenir. Ma peau percevait la chaleur d'un jeune corps, mais mon art sentait des dragons et des serpents se tordre sous mes doigts. « Il n'y a pas que de l'encre dans ces tatouages, » dis-je, sans parvenir à analyser ce que je captais. Avec un effort, Eliania répondit. Elle fabriquait ses encres à partir de son propre sang, afin que ses dessins lui appartiennent et lui obéissent toujours.
« Elle est mauvaise, »
fit Lourd d'un ton sinistre. La jeune fille m'avait fourni le renseignement qui me manquait. Malgré tout, la tâche fut éreintante. Je ne connaissais pas bien Eliania, et Lourd répugnait à poser la main sur elle. Il nous prêta son énergie, mais il fallut extirper chaque image séparément, détail par détail. La mère et la sœur de la Narcheska nous observaient en silence. Piotr resta un moment, sortit faire un tour, revint puis ressortit. Je le comprenais. J'aurais préféré, moi aussi, ne pas devoir assister à la scène. Une encre à l'odeur pestilentielle suintait, contrainte et forcée, par les pores de la malheureuse qui, pour couronner le tout, souffrait le martyr. Elle serrait les dents et martelait le sol à coups de poing en retenant ses cris. Ses longs cheveux noirs, rabattus en avant pour ne pas nous gêner, s'engluaient de sueur. Devoir, assis devant elle, la tenait par les épaules tandis que je suivais laborieusement, du doigt, chaque dessin en exhortant sa peau à rejeter la souillure de la femme pâle. Comme j'œuvrais ainsi, je revis soudain le dos du fou, semblablement marqué de façon exquise et cruelle, et je remerciai les dieux qui lui subi ce sort avant que la femme pâle eût acquis et perverti la maîtrise de l'art. Je ne comprenais pas pourquoi les tatouages d'Eliania résistaient ainsi à nos efforts. Quand la dernière patte griffue finit de s'effacer, je n'avais plus de force, mais le dos de la Narcheska était redevenu lisse et uni. « Voilà, » dis-je, épuisé, et je remontai la couverture sur ses épaules. Elle poussa un soupir qui évoquait un sanglot, et Devoir la prit dans ses bras avec douceur. « Merci, » me murmura-t-il. Puis il s'adressa à Eliania. « Tout est fini. Elle ne peut plus vous faire de mal. » L'espace d'un instant, je me demandais avec inquiétude s'il avait raison. Mais, avant que je pusse exprimer mes doutes, un cri que nous attendions tous retentit soudain à l'extérieur.
« Voile en vue, deux voiles, l'une bat pavillon du sanglier, l'autre de l'ours !»